RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Méliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Alors vous savez que la semaine dernière, c'était la semaine nationale contre le racisme. Mais contre le racisme, c'est toute l'année, c'est toute une vie qu'on doit combattre le racisme. Voyons, ou la xénophobie, les tartes à la crème, par exemple. Vous voyez, moi j'ai pris une tarte à la crème une fois. Eh bien, je vous dis que c'était dégueulasse, c'était pas une bonne tarte. Elle venait de Monoprix, c'est vraiment dégueulasse, c'est de préfabriqué. Bon, eh bien, ça fait partie du racisme, ça, hein? Bon, alors, je vais vous lire des poèmes. Alors, il y a un monsieur, Louis Lippens, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Face au racisme ». C'est pas nouveau, hein. Je peux vous dire que ce bouquin, il est... Alors, parce que le racisme, ça fait des millénaires que ça existe. Moi, je me souviens, les fameuses bêtes, là, les dinosaures. Eh ben, quand il y avait un dinosaure noir, tous les dinosaures blancs, ils le foutaient en l'air. C'est ça, du racisme. Hein, vous voyez, ça remonte pas à 50 ans, hein, ça fait plus que ça. Hein. Bon. Et alors, ce fameux Louis Lippens, qui était un homme merveilleux, oui, en 1967, vous voyez, hein. Ça remonte à quand même un bout de temps. Hein. J'avais quel âge, moi, 22 ans. Voilà, 22 ans. Alors, il a écrit des poèmes. Enfin, moi, je n'appellerais pas ça des poèmes, je appellerais ça des cris de guerre. Des cris de guerre. Alors, attendez, je vous ai en cherché un beau, parce que... Alors, il a écrit, mais ce n'est pas obligatoirement que des poèmes. Hein. Bon. Alors, voilà, l'injustice. Non, ça, je ne peux pas vous le dire, non. C'est que je n'ai pas préparé, parce que ce bouquin-là, j'ai trouvé 5 minutes avant de partir de chez moi. Donc, parce qu'en général, je prépare tout la veille. Hein. Donc, tous mes bouquins, selon le thème, selon ce que j'ai envie de vous lire, hein, bien sûr, et selon ce que vous aimez aussi. Parce que vous aimez tout ce que je dis ou tout ce que je vous lis, parce que je n'ai pas eu une seule remontrance depuis 10 ans. Depuis 10 ans que je fais ça, aucun auditeur m'a appelé pour dire « Arrête tes conneries, Méliès, t'es vraiment un con, tu racontes que des conneries !» Non, jamais c'est arrivé, jamais. Alors, pour moi, c'est un point d'honneur, je peux vous le dire. Hein. Ça veut dire que je peux continuer à raconter des conneries. Vous en foutez, hein. Vous avez bien raison. Bon, ben tant pis, je vous trouverai quelque chose plus tard. Hein. Là, je n'ai pas le temps. Alors, j'ai oublié de vous présenter mon invité. Et devinez d'où il vient. Incroyable, mais vrai. Il vient d'Haïti. Et il s'appelle Paye. Mais pas la paye du premier jour du mois, hein, non, Paye. Ouais, voilà, c'est un nom haïtien, bon, c'est comme ça. Et il est né là-bas, mais malheureusement, il est parti, il avait 3 ans et demi, ouais, pour arriver en France.
C'est ça.
Voilà. Donc il va nous lire un poème que j'ai écrit en Haïti, et qui va tout à fait contre le racisme. Allez, Paye, vas-y. Dis bonjour d'abord.
Bonjour tout le monde. L'albinos souriait à mes mains blanches qu'il tenait dans les siennes. Deux blancs, dit-il, avec un regard franc. Son front, habillé de crépus jaune, avec quelques taches d'un mauvais soleil, ressemblait à une montagne brûlée. Son sourire prenait la forme d'un ruisseau épuisé par sa chaleur de se faire accepter. Le presque blanc revendiquait sa naissance de nègre noir dans son village de Caz. Il était devenu le simple. Sa différence faisait de lui un paria noir. L'œil transparent devenait brun. En soupçonnant le regard moqueur des autres noirs. Mon regard changea le sien en soleil quand il découvrit mes yeux humides. Il n'avait jamais vu un blanc noir de rage. Ses frères le rejetaient pour sa naissance ratée. Et pourtant, c'était aussi mon frère noir.
Voilà, vous voyez. Et c'est vraiment... C'est beau. Écrit là-bas sur place, pratiquement quelques heures après cette rencontre avec cet albinos.
C'est magnifique.
Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur fantastique parce que je voyais que c'était un paria pour les habitants de son village. Vous voyez. Et ça me faisait mal, tout le monde fait, ça me faisait mal. Alors je sais qu'après, j'ai réécrit un autre poème sur les albinos, qui n'a rien à voir avec celui d'Haïti, bien sûr, parce que, bah oui, malheureusement, ils sont rejetés un peu partout. Et comme disait Peille, puisqu'il a, il connaît quand même une bonne partie de son histoire de son pays, les albinos étaient des fois tués à la naissance.
Bien sûr.
Un peu comme un sacrifice.
C'est ce que tu me disais.
Ouais. Voilà, donc c'est quand même honteux. Hein. C'est comme si, parce que moi, à la naissance, j'ai une verrue sur le nez.
Exactement.
Allez, hop, ma mère, elle me liquide, elle me fout par la fenêtre. Non, mais où est-ce qu'on va, là, hein? Bon, pas déconner. Bon, alors moi, je vais vous en lire un. Il a été écrit, bon, à Périgueux, mais c'est dans le même esprit de contre le racisme. Ça s'appelle Couleur ethnie, comme une ethnie, vous voyez?
D'accord.
Malgré la pâleur monocorde de ma peau, je dessinais avec les mêmes crayons de couleur d'un supermarché que les autres continents d'utiliser. L'homme bleu de Mauritanie regardait le même arc-en-ciel qu'une femme encore jaune par un métissage asiatique. L'enfant choisira la couleur de sa peau en tournant les pages d'un atlas décoloré par le relief des nations désunies, par des guerres de religion. Le vert et le bleu cherchaient leur histoire sur la nappe du monde, déjà entachée de mille histoires recolonisées par le pouvoir. L'enfant kabyle cherchait parmi ce désert sucré une Afrique à sucer et à aimer. La femme berbère cachait ses pleurs dans un moyen atlas, sans page, pour en faire une rivière où la vie s'écoulait avec de l'amour et des rires. Le chien chinois longeait les murs d'une muraille imaginaire pour éviter de finir sur le grand plat d'un appétit qui rise encore jaune. Vous savez, parce que là-bas, ils mangent les chiens. Hein. Il y a même des bonnes recettes, paraît-il. Hein. Bon, j'ai jamais goûté. L'Inde recrachait sa religion dans ce fleuve déjà inondé de prières. Le self contrôlait la nourriture spirituelle des États-Unis avec une feuille de salade rose et de la viande hachée au menu. Je vivrais sa seconde vie avec juste de la farine et quelques grains de raisin, sans boire dans le calice d'or et déjà, oublié d'un dieu qui ne serait trop athée. Voilà. Alors, ce fut écrit en 2002, à 20h02.
C'est profond.
Oui, parce que paye. Moi, je mets les dates de mon poème.
Oui, t'as raison. Mais c'est
et normalement, ils sont même numérotés. Et j'en suis, je crois, au 1750e poème. Vous vous rendez compte?
C'est magnifique.
Alors, j'ai pas encore battu le record de Jean Boussuge, qui était à 4885, presque 5000. Hein.
Ah oui.
Et je les ai en manuscrit et dactylographié, tous ces poèmes. Je ne sais pas ce que je vais en faire, bon, peut-être un bouquin. Je vais aller voir un relieur, s'il peut me les relier, je vais faire un bon bouquin avec.
Ça serait bien.
Bon, alors, pour ce... Alors, tiens. C'est mon technicien préféré qui va donner le nom du prochain morceau, là.
Alors, c'est... Jacques Prévert, étrange, étranger.
Voilà.
Étranges étrangers. Kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays lointains, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie. Boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées morts sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, polaque du Marais, du Temple, des Rosiers. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclave noir de Fréjus qui évoquait chaque soir, dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié et naturalisé. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfant trop tôt grandi et si vite en allée, qui dormez aujourd'hui de retour au pays le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie. Même si mal en vivez, même si vous mourez.
Voilà, hein, c'est pas beau ça.
C'est magnifique.
Bon, alors, oh là là. Bon, comme c'est plus la semaine contre le racisme, on va penser, à, on va parler d'autre chose. Hein. Vous avez qu'à m'écouter la semaine dernière. Hein. Bon, hein, bon. Eh oui, vous n'avez pas écouté la semaine dernière? Oh, c'est pas beau ça. Eh mamie, tu m'as pas écouté? Quoi? Non, non, mais tu te fous de ma... Attention à ce que je vais dire. C'est pas gentil, mamie, hein. D'habitude, tu m'écoutes tout le temps, toute la demi-heure, hein. Et puis, quatre fois par semaine, hein. Je te préviens que si tu m'écoutes plus, je vais te virer. Je te préviens tout de suite. Tu sais que j'ai fait la connaissance de quelqu'un d'autre. Il s'appelle Jacqueline. Et moi, je l'appelle Jaco, parce qu'on est tellement intimes tous les deux qu'il y a de fortes chances que je te vire, hein. Tant pis pour toi, hein. Je m'en fous, tu peux la casser, ta radio, je m'en fous. C'est ton problème, c'est pas le mien. Allez. Alors... Dans mon dernier bouquin, que vous n'aurez jamais, parce que je l'ai qu'en un seul exemplaire. J'attends pour le faire imprimer, j'attends que vous appeliez la radio pour dire « Oui, on le veut, on le veut, on le veut !» Bon, alors c'est mon deuxième tome de balades poétiques au travers d'un Prévert, vous savez. Hein. Là, Prévert, vous avez venu d'entendre, là. Hein. Bon, enfin, c'était pas lui, c'était Jean-Guy Donnie, hein, qui parlait. Bon, alors, là j'ai un poème. Figurez-vous que j'ai encore oublié de fermer la lumière dans la cage d'escalier. Alors, je l'ai écrit en mai 2007, à 3h05 du matin, dans l'escalier, écrit en l'absence de la concierge, qui comptait les poils de son balai, figurez-vous. Hein ? Vous vous rendez compte ? Hein ? C'est pour ça que j'en ai profité. L'autre jour, le luminaire, celui qui, en général, reste allumé tard dans la nuit, me dit vers la fin de la journée qu'il me fallait aller me coucher. Bon, je l'écoute, quand même, c'est le seul qui, à peu près, est logique, hein, bon. Fallait-il l'écouter alors que la nuit allait à peine commencer? Que dire de ce jour vieillissant si celui-ci raccourcissait la nuit? Surtout pas en début de soirée, non, non. En voyant ma concierge sortir les poubelles vers minuit, je me dis qu'elle avait sûrement perdu la notion du jour et de la nuit. Parce que moi, je n'ai pas entendu jamais une concierge sortir les poubelles à minuit, hein. Non, jamais. Minuit 5, oui, mais pas minuit. Alors, la pauvre... Une concierge qui ne fait plus la différence entre le jour et la nuit n'est plus la concierge de jour, mais la gardienne de nuit sans aucun but. Pourtant, elle avait toujours sa jupe plissée sur le côté gauche et son chemisier mal repassé sur sa lourde poitrine. Le seul changement qui pourrait nous faire croire à un changement d'horaire, c'est le balai qu'elle tenait dans l'autre sens. Poil de crin en haut, manche de bois en bas. Quelle drôle d'idée! Mais en regardant de plus près... Des indices apparaissaient, juste au-dessus des poêles. Fallait-il prévenir l'ensemble des locataires des 6 étages et de la mansarde d'étudiants louée par une bonne de 3e? Non, car le temps de les prévenir, il serait trop tard. Le scandale aurait éclaté à la face du monde. Et ça, je ne le voulais pas. Par respect pour la corporation des concierges de France et du Portugal, je me tairais. Ouais. Voilà, ça termine là-dessus, portugaise, bon, ma foi. Bon, vous voyez comme quoi on peut rigoler. Donc. La poésie, c'est pas seulement sérieux. Ça peut l'être, ça peut être même triste. Mais ça peut être gai, ça peut être marrant, ça peut être hilarant. Hilarant ? Ils m'ont jamais rendu. Comment voulez-vous qu'ils me la rendent ? Et vous avez entendu, pas il rigole, hein ? Il se marre, hein ? Bon alors, t'as pas quelque chose à nous dire, là ? T'as pas trouvé quelque chose dans ce bouquin-là ?
Si, il y en a un qui est pas mal.
N'importe lequel, hein, parce qu'on n'est plus dans la semaine de du contre le racisme. Hein. On est dans la semaine de la blague.
Ouais, mais sur ça, il y a beaucoup de trucs tristes, Maurice.
De quoi ?
Il y en a beaucoup de choses tristes dans celui-là.
Ben ça fait rien, t'as le droit. Tu peux même les dire en rigolant. Pourquoi pas ? Et ça sera moins triste comme ça, tu vois ? Bon, dépêche-toi, parce que l'heure est passée et mamie, elle va faire la gueule, hein, si elle n'entend pas.
Bah, eh j'en ai un.
Allez, t'en as un, vas-y.
Déporté, arraché à la terre maternelle, arraché au village porteur. Oui, c'est pas ça.
De quoi ?
Je me suis trompé de mot. Je te la refais.
Vas-y.
Déporté, arraché à la terre maternelle, arraché au village protecteur. Déporté, capturé, enchaîné, frappé, Vendu, au poids de muscles et de stature, à la force du souffle et brillant de l'œil. Vendu, vendu. De main chrétienne en main chrétienne, attelé, obligé, humilié, frappé, croisé, enterré, n'ayant d'autre droit que celui d'obéir. Se soumettre sans gémir. Déporté, vendu, humilié. Ils ont osé, les petits, les parias, les nègres. Ils ont bousculé les maîtres, étripé, chassé les maîtres, les nègres. Soulevé, enivré d'espoir, ils ont inversé le pouvoir. Les nègres, dans leur élan libérateur, ils ont dressé sur les hauteurs de hautes murailles, pleines de mitrailles, orgueil, chant patriotique, rude mouvement pathétique. Les nègres, en effrayant les invasions, ont inventé la dissuasion. Les nègres, libres, ivres, un moment, ont planté dans le ciel la citadelle. Cap haïtien, Haïti, 1979, Jean-Claude Lemoyne.
Alors voilà, Jean-Claude Lemoyne était en 79 en Haïti. Il était ingénieur agronome et il a fait tous les pays du monde. Il a écrit sur tous les pays du monde d'ailleurs. Alors j'ai mis ce poème dans mon livre parce qu'il parle d'Haïti. Il parle au moment de la libération d'Haïti qui est devenue une république.
C'est ça.
C'est-à-dire ils ont foutu en l'air les troupes de Napoléon à l'époque. Vous voyez, parce que ça fait plus de 200 ans qu'ils sont. Bon, vous me direz ce qui se passe en ce moment. C'est pas beau, hein. C'est pas beau. Hein. C'est presque la guerre civile, si on peut appeler ça, même la guerre civile. C'est plus le gouvernement ou l'armée contre le peuple, c'est le peuple contre le peuple au travers de bandes, de bandits, d'assassins. Vous voyez ?
Le premier ministre est parti.
Voilà. Alors, il est au courant de ce qui se passe. Hein, c'est quand même son pays. Hein.
Bien sûr.
C'est atroce, c'est atroce.
C'est malheureux.
Ouais, voilà. Ouais. Bon. Vous voyez, tout n'est pas rose. Hein. Ouais. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Alors, moi, je vais continuer avec un autre poème. Il n'y aurait pas d'herbe dans les prés s'il n'y avait pas de poète. Non, c'est sûr. Hein. C'est pas que nous, on broute pas l'herbe, hein, non, on laisse brouter par les vaches. Hein. Mais bon, alors, ça a été fait en 2004. Hein. Bon, facile à dire. Hein. On pourrait croire que les bœufs et les chèvres sont des poètes en affirmant cela. Hein. Et pourtant, la poésie semble parfois ressembler à de l'herbe à vache, hein, en mal de trouver un public ruminant dans un pré vert. Ben oui. Ce qui me fait dire cela, c'est le manque d'intérêt des instances culturelles pour cette forme littéraire qui l'on nomme souvent parent pauvre de la littérature. Mon cul, oui, pauvre, mais non, la poésie est si riche que personne ne la lit au lit. Hein ? Est-ce le recul culturel de quelques snobinards qui versifient autant qu'ils pètent ? En tous les cas, la poésie n'est pas à donner aux cochons. Nous revoilà dans le pur espace. Pur élevage de l'animal, illettré. Ah oui, l'animal, vous savez, il y a certains animaux, on les trait.
Oui.
Et illettrés, ils sont illettrés aussi.
Oui, oui.
Oh, oui. Alors, je suis obligé de vous expliquer les jeux de mots, parce
magnifique,
que
ce jeu de
à la radio, ça passe pas. Ça, on peut le lire, mais on peut pas le comprendre. Bon, hein. Bon. Prenons l'exemple des poètes. Les poètes qui n'avaient même pas de quoi s'offrir une côte de mouton ou une tête de veau vinaigrette. Alors, bon, Chirac, il aimait la tête de veau vinaigrette, mais ça n'a rien à voir. Hein. Est-ce normal que le poète ne puisse pas s'inspirer le ventre plein ? Certains diront que c'est pour cela, avec la faim au ventre, qu'ils étaient aussi bons. Quoi ? La côte de bœuf ? Ou les poètes ? Hein ? C'est pas en écrivant que le lapin sent bon la marinade quand le verre est vide. Au contraire, le lapin se marre quand le poète se narre. L'âne, le défouloir des ânes, qui cherche pire qu'eux, et qui trouve. Alors, moi, je vais vous donner... Je fais une petite halte. Moi, ça me fait chier quand je fais les mots croisés et qu'on dit « il est bête » ou « l'animal est bête » et on est obligé de mettre « âne ». Vous savez qu'un âne est plus intelligent qu'un âne ? Et quand je parle du deuxième âne, c'est l'homme, bien sûr. Non, ça me fait chier à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je déchire le bouquin de mon croisé ? Non, bon, je passe, tant pis. Là, je mets rien du tout, là. Voilà. Bon. Alors, tiens, ben justement, j'en oublie la poésie tellement, je suis en colère contre les ânes. Mais pas les mêmes, hein, les vrais. Bon, hein. Ceux qui tentent d'être aussi intelligents que les ânes, ceux qui sont dans le pré On dit aussi que les enfants des ânes sont dans le préau. Tiens, j'y avais même pas pris garde. Bon, allez, assez de dire du mal de son voisin. Celui qui se bose dans son lit à 10h du matin, au lieu d'écrire de la poésie en slip. C'est quand, le gourou? Vers les 3h du mat. Voilà. Bon, je suis désolé de vous parler des ânes comme ça, hein, des poètes qui ont faim, mais c'est vrai. Bon, moi, je suis poète, j'ai pas faim. Mais parce que j'étais pas poète avant, c'est pour ça. Hein? Seulement, celui qui démarre dans la vie en étant poète, il va crever de faim, c'est sûr. Alors, il peut toujours faire la manche. Bon. La manche, ça nourrit pas son homme. Hein. Bon. Dans ces cas-là, ce qu'il vaut mieux, c'est lui acheter du papier et un crayon, pour qu'il puisse continuer à faire de la poésie, vous voyez, hein? Parce qu'au final, il se nourrit de ça, hein? Le poète, bah oui, quelque part. Il y a plusieurs façons de se nourrir pour un poète. Tiens, si on passe un peu de musique, allez. Tiens, Georges Brassens.
Je peux pas le faire, ça. La 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 la
La vie de deuil jusqu'à présent ne se portait facilement que chez le personnel funéraire, les anciens croque-morts ordinaires. Depuis que la vogue est au noirâtre dans les rues de Saint-Germain des Prés, il y a des croque-morts améliorés. Et alors là, je fais mon geste. La vie de deuil jusqu'à présent ne se portait facilement que chez le personnel funéraire, les anciens croque-morts ordinaires. Depuis que la vogue est au noirâtre dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, qu'à des croque-morts améliorés. Oui, mais c'est pas de ma porte, aucunement, qu'on mène mon enterrement avec des croque-morts ordinaires ou bien leurs nouveaux congénères. Mais le bruit court que des emplâtres ont une peur bleue d'être enterrés par les croque-morts améliorés.
Vous
aimez
mieux le deuxième, là, hein,
vous dites
très
bien. Ah bon, mais si j'en faisais 5 ou 6, vous verriez, c'est étonnant.
C'est bien.
Et c'est pourquoi j'ai fait ce chant qui va permettre aux braves gens de distinguer les funéraires, les anciens croque-morts ordinaires, les galopins un peu folâtres qui se mettent en deuil exprès. Les croque-morts améliorés.
Non, mais je ne voudrais pas le faire.
Mais pourquoi?
Parce que les paroles sont plus belles.
Si le croque-mort s'en va maintenant, les joyeux couplets à 20 francs, c'est un honnête fonctionnaire, c'est un croque-mort ordinaire, mais s'il écoute un idolâtre, les disques des bibop cassés, c'est un croque-mort amélioré.
Oui, après tout ça.
Et puis il reprend la la la, parce qu'il y en a plus, je me rappelle plus de tout. Non, c'est un master, ça va être un truc étonnant sur le sujet.
Et voilà. Alors, en fait, c'était une répétition de Georges Brassens et bon, de son entourage de musiciens. Et c'est pour ça que c'est aussi marrant, c'est pratiquement, amusant. Parce qu'un croque-mort amélioré, bon, maintenant, je ne sais pas comment on fait pour avoir un croque-mort amélioré. Hein. Un croque-monsieur, oui. Hein, demandez chez McDo, vous allez voir, ils vous font un croque-monsieur amélioré. Mais un croque-mort amélioré, non, je ne pense pas. Bon. Alors, bon, je ne vais pas, on arrête hein, pour le racisme, on verra ça l'année prochaine plutôt. Hein. Et on va faire, alors tiens, paye, il y a un poème de ton pays là que j'ai écrit.
Oui, vas-y. Je suis en train de le lire.
Il ne faut pas le lire, il faut le raconter.
Le carrefour fauché.
Voilà, alors le carrefour fauché, il existe. Il existe vraiment. Mm-hmm. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vers Port-au-Prince ou Jérémy, je me souviens.
C'est Port-au-Prince.
Port-au-Prince.
Ouais. Ouais. Elle tentait de rejoindre le carnaval de Port-au-Prince par la montagne Mardi Gras proche du carrefour Fauché. Malgré les pas de meringue bien pimentée, la route ricochait à chaque pas mal dansé, en s'alourdissant dans les jambes frêles de Joséphine. Le rythme, malgré sa fatigue, encerclera de nouveau son ventre dès demain. La route grossissait avec cette multitude de visages décolorés qui retenaient leur souffle court pour ne pas en pleurer. Les cases, au bord des larmes, se serreront les unes contre les autres pour laisser passer ce cortège cadencé. Les corps retenus par des bras se détacheront pour en attendre le vidé. Boca Chica, Santos Domingo, jeudi 21 février 2002.
Alors, le vidé, bon, ça existe surtout là-bas, aux Antilles. Ouais. Le vidé, c'est un peu la fin du carnaval.
C'est ça.
Hein, c'est... Alors, je crois que c'est le mercredi, ben non, le mardi gras, le mercredi, c'est le vidé. Ouais. Mais là-bas, le carnaval, on le prépare des semaines à l'avance. Et figurez-vous que Dunkerque a commencé son carnaval juste au premier de l'an. Voilà. Et là, alors là, ils sont en plein. Là. C'est... Moi, j'ai mes cousins et mes cousines de Dunkerque m'envoient sans arrêt des photos où ils sont déguisés, ils font la fête. Il y a des grandes salles qui s'appellent l'Arsenal, où alors ils dansent, il y a de la musique, ils font la fête et tout, c'est superbe. Mais après, je crois qu'on peut dire que Dunkerque est plus vivant que Nice. Bon, Nice, c'est la foire au citron, hein. citronnade ou n'importe. Hein. Alors que Dunkerque, bon, Dunkerque, c'est les harengs, c'est la bière. Bah oui.
Ah oui.
C'est pas le vin rouge, hein, c'est pas le rosé, hein, c'est la bière. La bière qui vient d'ailleurs du Nord, mais également de Belgique, hein, et pas qu'une fois. Hein. Alors il paraît qu'il ne reste que 2 minutes. Alors, tiens, mamie, j'ai envie de discuter un peu avec toi. Je crois que je te trouve très lointaine de moi depuis quelques temps. Je crois qu'on va être obligé de nous séparer, tu sais. Bah oui, comme je te dis, j'ai fait la connaissance de Jaco. Hein. Elle est pas mal non plus, tu sais, elle est mignonne. Bon, elle a quelques rides, bon, bien sûr. On sent qu'elle a les yeux un peu cernés par la fatigue. Et puis elle a des cheveux blancs, bon, comme toi. Ah oui, mais moi aussi j'en ai un, hein. Bon, c'est pas un problème. Hein. Bon, et elle est un petit peu plus jeune que toi. Toi, t'as 79 ans, elle a 78 ans. Ils rigolent, hein, tous, là. C'est sérieux, on est une émission de radio, hein, bon. Faut pas déconner, quand même, merde. Bon, alors, écoute, je te souhaite bonne chance, mamie. J'espère que tu trouveras un copain comme moi. Bon, il fera peut-être pas de la radio, lui, hein. Bah, tant mieux, parce que tu le verras peut-être plus souvent, comme ça, hein. Si tu veux, je peux t'en présenter un. Bah, il est trop jeune pour toi, il a 19 ans. Bon, allez, je vous laisse tous, l'ami. Et t'inquiète pas, mamie, tu vas t'en sortir, bah, t'inquiète pas, tu vas t'en remettre de ça. Bon, c'est une séparation, c'est tout, sans plus. Allez, je vous aime tous, même toi, mamie. Allez, au revoir.